France Culture. France Culture, grand reportage, Julie Paco.
Cela fait 20 ans que je suis parti du Honduras. Je travaillais dans la construction aux États-Unis. Ils m'ont expulsé et me voilà ici.
Pour moi, le monde s'est écroulé. Le plan, c'était d'être tous ensemble aux États-Unis. Et en plus, je savais qu'ici, au Honduras, il n'y avait plus rien dans cette maison. Pour pouvoir partir, nous avions tout vendu ou donné, les meubles, les objets. On doit repartir de zéro.
La réinsertion est vraiment difficile pour beaucoup de migrants. Et pas seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan psychologique. Il faut beaucoup de résilience, surtout quand on a une famille.
Pour la première fois depuis un demi-siècle, les États-Unis ont enregistré un solde migratoire négatif en 2025. D'après un rapport publié par Brookings Institution, un think tank américain spécialisé en sciences sociales, le nombre de personnes ayant quitté les États-Unis a été supérieur à celui à des immigrants qui s'y sont installés. La première année du second mandat de Donald Trump a été marquée par des changements radicaux dans la politique d'immigration, entraînant un net ralentissement de la migration vers les États-Unis, écrivent les auteurs. Des changements radicaux, à savoir le durcissement des contrôles à la frontière sud et l'intensification des procédures d'expulsion de migrants, en particulier latino-américains installés parfois depuis des décennies aux États-Unis. En un an, près de 330 000 migrants ont été expulsés par l'administration Trump. Des hommes, des femmes, des enfants. À l'instar de Liam Conero Ramos, 5 ans, arrêté à la sortie de son école maternelle le 20 janvier dernier par des agents fédéraux de l'ICE à Minneapolis. Avec son cartable Spider-Man et son bonnet bleu aux oreilles de lapin, et dont les images ont ému bien au-delà du continent américain. Un enfant d'origine équatorienne, arrêté avec son père, tous deux incarcérés depuis au centre de détention pour familles de migrants de Dailey, au Texas. Plus de 60 000 personnes sont aujourd'hui détenues dans une centaine de centres à travers les États-Unis, après y avoir été transférées sans explication parfois et sans que leurs proches ne soient informés. Une fois expulsés, comment se passe leur retour dans les pays d'Amérique latine? Quel accueil leur est réservé? De quel accompagnement bénéficient-ils et comment parviennent-ils à se reconstruire, à se réinsérer? Rêve brisé, exil entravé, migré sous Donald Trump. C'est un grand reportage signé Marie-Aimée Copleutre. Bonjour Marie-Aimée.
Bonjour Julie.
Vous êtes donc intéressée à ce qui se passe après ces arrestations massives de migrants de l'autre côté de la frontière états-unienne en Amérique centrale et plus particulièrement au Honduras.
Oui, c'est ça. Une fois ces migrants expulsés, que deviennent-ils? Eh bien, déjà, ils arrivent sur le sol hondurien en tenue détenue, en survêtement, parfois même avec des menottes qui leur sont retirées dans l'avion juste avant de poser le pied sur le sol hondurien. Avec ma consoeur Célia Poussé, journaliste en presse écrite, nous les avons rencontrés à leur sortie de l'avion. Ils arrivent le visage creusé, hagards, ils sont totalement perdus, ne possèdent plus rien, juste un petit sac en plastique qui contient des chaussettes, une brosse à dents obtenue dans le centre de détention. Pas de téléphone non plus. Les migrants les ont vus retirer dans le centre de détention. Ils ont donc juste un petit morceau de papier qui contient les numéros d'un cousin, d'une tante, d'un parent au Honduras à contacter pour pouvoir se loger, se nourrir au moins quelques jours. Solidarité familiale qui fonctionne très bien ici. L'accueil de ses proches expulsés se fait aussi des fois dans la joie. Il y a des fêtes improvisées dans les quartiers, également à l'aéroport. Nous avons vu des ballons et des cadeaux pour certains des proches, tenter d'apporter un peu de joie, de ne pas toujours victimiser ces femmes et hommes qui viennent de traverser une étape éprouvante, un moment de répit, de douceur avant de devoir se reconstruire dans un pays qu'ils peuvent avoir laissé pendant 5 ans, 10 ans ou même 20 ans, comme on l'entend dans ce reportage.
Et nous parlerons des enjeux de cette réintégration des migrants expulsés pour les pays latino-américains avec notre invité. Bonjour Lucie Laplace.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse spécialiste des migrations latino-américaines à l'Université Lumière Lyon 2 en direct depuis le studio d'ici Pays de Savoie à Chambéry. Alors avant de vous donner la parole, Lucie Laplace, je vous invite à écouter ce grand reportage de Marie-Aimée Copleutre qui débute devant un aéroport au nord du Honduras.
Ici, je me trouve à l'entrée de l'aéroport de San Pedro Sula, la plus grande ville du nord du Honduras, à la frontière avec le Guatemala.
Chaque jour, entre 2 et 5 avions arrivent en provenance des États-Unis. À leur bord, des migrants hommes, femmes et enfants qui ont passé plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans les centres de détention américains. Est-ce que je peux vous poser quelques questions ? Pourquoi vous êtes ici ?
Parce que je suis venue chercher ma nièce. Elle a été expulsée depuis la Floride. Elle y était depuis ses 9 ans et aujourd'hui, elle en a 19. Elle se rendait à son travail quand les services de l'immigration l'ont arrêtée et l'ont expulsée vers son pays, ici, le Honduras. Elle n'avait pas de papier. Elle était en situation irrégulière. Elle revient enceinte et laisse derrière elle une petite fille de 9 mois.
Et elle arrive seule, sans le père de la petite.
Oui, elle arrive seule parce que c'est seulement elle qu'ils ont arrêtée. Elle faisait des courses quand ils l'ont interpellée. Ils l'ont emmenée et ils ne lui ont pas laissé la possibilité de défendre son cas. Ils l'ont expulsée. Ils l'ont même menottée aux pieds et aux mains. Comme si c'était une criminelle. Mais c'est une femme courageuse, travailleuse, qui était partie pour chercher une vie meilleure. Vous comprenez ? Malheureusement, c'est comme ça. Ce sont les plans de Dieu. Et lui seul sait pourquoi il l'a renvoyée dans son pays.
Merci beaucoup. Et vous vous appelez comment ?
Scarlett.
En s'approchant dans une grande salle aux lumières vives, il y a plusieurs dizaines de migrants latino-américains expulsés. Ils s'enregistrent auprès de l'État hondurien et en échange reçoivent 150 euros, un repas et quelques produits d'hygiène. Un peu en retrait, assis sur un banc, se trouve Roberto, les mains croisées, son visage est marqué par la fatigue. À 63 ans, il a été expulsé.
Ils m'ont expulsé et me voilà ici. Je suis en train d'attendre un peu d'aide et que l'on m'apporte un peu de soutien. Cela fait 20 ans que je suis parti du Honduras. Je travaillais dans la construction, dans le bâtiment aux États-Unis, pour des maisons, des immeubles, de tout.
Et maintenant, vous allez travailler ?
Bien. En réalité, j'ai un terrain dans le département de Olancho, au Honduras. Donc je vais pouvoir élever quelques bêtes et faire pousser quelques légumes.
20 ans passés aux États-Unis pour Roberto, qui a laissé derrière lui sa femme et son enfant sans jamais les revoir.
Retrouver mon fils et ma femme, je me sens très heureux, bien sûr.
Vous nous racontiez que vous avez parlé avec elle ces 20 dernières années, tous les jours par téléphone depuis les États-Unis.
Oui, tous les jours, à midi. Seulement ces derniers jours, comme j'ai été en prison, dans un centre de détention, pendant 15 jours, je n'ai pas pu lui parler.
Et vous allez vous retrouver en étant devenu plus vieux ?
Oui, imaginez, on va devoir tout recommencer depuis le début. J'espère que ça va marcher. Imaginez tout ce temps sans la voir, à l'attendre.
Certains migrants rentrent sans connaître leur pays. C'est le cas d'Edwin, parti à 7 ans, revenu à 19 ans. À son arrivée, son seul lien avec le Honduras, c'est sa mère qui est restée aux États-Unis et qui l'appelle par WhatsApp.
Qui va venir me chercher, maman ?
Depuis le centre de San Pedro Sula, elle arrive dans quelques minutes.
Ah, mais c'est Araceli qui arrive. À quoi ressemble-t-elle ?
C'est une dame à peu près mon âge. Elle est claire de peau, toute menue, claire et mince.
Blanquita, flaquita.
Oui, elle est très claire. Elle ressemble un peu à ma tante Mila. Elle va arriver avec un jeune homme, je crois, ou avec un monsieur.
Moi, je suis juste à l'entrée ici. J'ai un peu peur d'aller plus loin, devant.
Non, ne t'éloigne pas, mon fils, parce qu'on m'a dit qu'on volait là-bas. Une jeune fille m'a raconté qu'ils avaient volé son frère.
En raccrochant, Edwin raconte ses 7 mois passés en prison aux États-Unis après avoir été arrêté dans l'Oklahoma par l'ICE, la police de l'immigration.
C'était comme une petite chambre, mais tout était fermé. Il y avait plusieurs cellules. J'étais à l'étage. Ils m'ont frappé. Ils voulaient me prendre ma nourriture et je ne l'ai pas donnée. Alors ils m'ont frappé. Je n'avais jamais vécu quelque chose comme ça. Je ne veux plus jamais le revivre. Maintenant, ici, je suis tranquille. Je suis libre. Maintenant, j'attends simplement. C'est la fin de mon voyage désormais. Je reste au Honduras. Maintenant, je suis libre.
Des conditions de détention difficiles rapportées par les migrants et confirmées par la directrice du centre d'accueil des migrants, Idalina Bourguignon.
Ce que nous savons, c'est ce qu'ils racontent. On les garde enfermés comme des animaux. Ils disent que les conditions sont inhumaines, qu'on leur crie dessus, qu'on les insulte. Et s'ils se rebellent, ils vont à l'isolement. On les enferme à part dans une sorte de trou d'à peine un mètre carré, complètement fermé, où la nourriture passe par une petite fenêtre. Et ils peuvent rester là-bas 8 jours. Beaucoup sont maltraités en prison. D'autres sont violés à l'intérieur même de la prison. Il existe des cas de violence absolument terribles. Chaque jour, le nombre de personnes qui reviennent avec des problèmes mentaux augmente. Et l'autre point important, c'est qu'au moment de les arrêter, on ne leur laisse rien récupérer, ni argent, ni papier. Aucune affaire. On les arrête et on les renvoie comme ça, uniquement avec les vêtements qu'ils portent. Pour moi, c'est une vraie situation de guerre contre les migrants.
En mi país tengo a mil y sol ardiente. Se ve la historia en los rostros de la gente.
Après l'expulsion, comment se réintégrer économiquement dans l'une des régions les plus pauvres du monde ? En Amérique centrale, près d'un habitant sur deux vit sous le seuil de pauvreté, soit moins de 2 dollars par jour. Les migrants mexicains, guatémaltèques, salvadoriens, honduriens quittent leur pays pour des raisons de sécurité liées à la présence de gangs, mais aussi par manque d'opportunités professionnelles. Direction Yoro, une autre ville reculée dans la campagne hondurienne. J'ai rendez-vous avec Gabi et Martha, mère et fille, expulsées des États-Unis il y a 6 mois. Depuis, chacune a créé sa petite activité. Les deux femmes m'accueillent dans leur cuisine où Martha fait frire du poulet.
Celui-là contient de l'oignon, de la betterave et du piment jalapeño avec un peu de vinaigre. Là, ce sont les poulets que nous vendons. Nous proposons des plats différents tous les jours. Oui, nous vivons de ces ventes.
Et cela vous aide à payer
la rente, la luz.
Oui, cela nous aide à payer l'électricité, Internet. C'est pour acheter de la nourriture aussi, pour une semaine ou pour 15 jours. Il y a des bons jours et il y a des jours moins bons, n'est-ce pas ?
Martha gagne entre 5 et 6 euros par jour, un revenu insuffisant qui ne lui permet pas d'investir dans des équipements plus professionnels. Actuellement, elle cuisine chez elle sur une très petite gazinière blanche à 4 feux.
Nous avons très peu de choses. Il nous faudrait une friteuse pour le poulet, un congélateur et une cuisinière industrielle. Un congélateur peut coûter environ 600 euros. Et une cuisinière industrielle coûte autour de 200 euros.
Se reconstruire, repartir de zéro, un défi immense pour les migrants, en particulier les plus âgés, comme Martha, 67 ans.
Pour moi, le monde s'est écroulé, parce que ce n'était pas le plan. Le plan, c'était d'être tous ensemble aux États-Unis. Et en plus, je savais qu'ici, au Honduras, il n'y avait plus rien dans cette maison. Pour pouvoir partir, nous avions tout vendu ou donné, les meubles, les objets. Mais quand on revient, quand il n'y a plus rien ici, toutes les portes se ferment et on doit repartir de zéro.
À son retour au pays, sa fille Gabi a, elle, créé sa petite activité de fabrication de bijoux à domicile. Elle a pu entreprendre grâce à un microcrédit.
de 6 millimètres. Gracias a Dios. No sé si han escuchado de CAS.
Dieu merci. Je ne sais pas si vous connaissez CAS, mais c'est une ONG qui aide les migrants expulsés au Honduras. Je suis donc allée les voir et je suis entrée dans un processus de microcrédit. Avec ce qu'ils m'ont donné, $350, j'ai pu recommencer quelque chose. J'ai pu acheter des fournitures, des perles pour ce commerce. C'est ce que j'ai fait car j'ai toujours été bonne dans la création de bijoux. Je savais déjà que j'avais mes clientes. Il ne me restait plus qu'à repartir à zéro. Ce programme, ça s'appelle Capital Semilla. Ce sont des organisations qui aident les gens à se lancer et leur donnent de l'argent pour entreprendre. Mais en fait, ils ne te donnent pas de l'argent directement, ils te financent plutôt le matériel ou ce dont tu as besoin pour démarrer.
La réinsertion est très difficile pour beaucoup de personnes.
La réinsertion est vraiment difficile pour beaucoup de migrants, et pas seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan psychologique. Je connais un jeune qui s'est suicidé après avoir été renvoyé du pays. Certaines personnes ne savent pas comment repartir à zéro. Il faut beaucoup de résilience, surtout quand on a une famille. Quand on ne sait pas quoi faire en revenant ici, c'est une situation très difficile. Et c'est encore plus dur quand les gens t'appellent pour te demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu n'es pas passé. Les gens, ils veulent des explications, des justifications de ton échec. Alors oui, je me suis beaucoup renfermée sur moi-même. J'ai beaucoup pleuré parce que je n'avais plus rien. Mais bon, j'ai aussi croisé beaucoup de migrants qui ont perdu des proches sur la route ou qui sont tombés malades. Au final, j'ai de la chance, j'ai arrêté de me plaindre. Il y a tellement de gens qui ont vécu des choses bien pires. Nous, même si on a dû tout recommencer à zéro, on est toutes ensemble, mes filles, ma mère et les autres membres de nos familles. Et c'est pour ça que je ne repartirai pas. Pour mes filles, je ne prendrai pas ce risque une nouvelle fois. Je ne le referai pas.
La réintégration de ces populations migrantes est essentielle. Or, la plupart des États d'Amérique centrale ne disposent pas de ressources économiques suffisantes pour déployer des politiques sociales solides et durables. Les ONG et les bailleurs internationaux deviennent alors des acteurs clés pour combler ce manque. De retour dans la capitale du Honduras, Tegucigalpa, je rencontre Roussel Espinal. Il est directeur adjoint du Bureau national de la migration et représente l'État hondurien.
En tant que pays, nous avons la responsabilité de soutenir les migrants expulsés et pour cela, nous travaillons avec différents partenaires, qu'il s'agisse d'organismes internationaux comme l'ONU, l'Organisation internationale de la migration ou le Haut Comité aux réfugiés, mais nous avons aussi des relations bilatérales avec différents pays qui s'intéressent à cette question. Par exemple, l'Allemagne, l'Espagne ou le Japon, ils soutiennent différents projets, souvent via des organisations. Nous, nous avons les mandats d'exécution et eux s'adaptent pour mieux nous aider à mettre en œuvre ces projets. Beaucoup de projets de réintégration sont donc mis en œuvre par ces partenaires. Nous les aidons à trouver les personnes, à les orienter. La réintégration des migrants expulsés se fait à différents niveaux. Nous intervenons pour les soutenir dans plusieurs domaines, pas seulement la santé physique, mais aussi la santé mentale. Également, la réintégration économique, la réintégration dans les villages et les communautés, car certains reviennent et sont stigmatisés. Ils peuvent être vus comme des perdants. Enfin, nous prenons aussi en compte leur sécurité.
Sur le plan économique, certains migrants partis se former aux États-Unis peuvent revenir avec des compétences, valeur ajoutée pour le pays, explique Roussel Espinal.
Oui,
beaucoup de personnes qui étaient aux États-Unis travaillaient dans la construction ou la mécanique et ont appris à manier du matériel plus moderne. Et ce n'est qu'un exemple, mais les migrants reviennent avec des connaissances dans la restauration, les nouvelles technologies, l'immobilier. Dans différents domaines, ils peuvent apporter de nouvelles idées et compétences et les mettre en œuvre ici, au Honduras.
Ces prises en charge institutionnelles ou associatives concernent les adultes, mais aussi les enfants. La migration touche en effet de nombreux mineurs latino-américains qui franchissent, chaque année, seuls ou accompagnés, la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Désormais, eux aussi sont expulsés. Rien qu'en 2025, près de 3000 enfants honduriens ont été renvoyés des États-Unis. Fabriella, 12 ans, fait partie de ces jeunes expulsés. Au cours des 7 dernières années, elle a vécu 5 ans au Mexique, puis 2 aux États-Unis.
Al regresar acá a Honduras, sentí una mezcla de d'émotions comme félicité.
En revenant ici au Honduras, j'ai ressenti un mélange d'émotions, de la joie, de la frustration, de la tristesse, de la joie de revenir dans mon pays en pensant qu'on pouvait reconstruire cette vie qu'on avait avant de migrer.
Tristeza y frustración al tener que ser de vuelta.
Mais aussi de la tristesse et de la frustration de devoir revenir ici, sachant que ma mère était elle aussi frustrée et triste parce qu'elle voulait que nous ayons une bonne éducation et un bel avenir aux États-Unis. Je me sentais déçue, surtout envers moi-même. Quand on est frustré contre soi-même, on se sent coupable. Et je crois que ma mère a dû ressentir un peu la même chose.
Pour Fabriella, le retour se passe bien, mais ce n'est pas le cas de tous les enfants. Certains reviennent marqués par la route migratoire. Candida Maria Sauceda est psychologue, également directrice nationale de Casa Alianza, une ONG présente dans toute l'Amérique centrale et spécialisée dans l'accompagnement des enfants.
La mayoría de los niños, yo diría que el 100% de estos niños vienen.
La majorité des enfants, je dirais que 100% de ces enfants arrivent avec des traumatismes. Pourquoi? Parce que sur les routes migratoires, ils ont pu être victimes de maltraitance, maltraitance physique, maltraitance émotionnelle, mais aussi des agressions sexuelles. Certains ont été victimes de traite humaine, utilisées pour le trafic de drogue, utilisées comme des mules. Donc, beaucoup de ces enfants, quand ils arrivent ici, ont peur, ne dorment pas, souffrent d'insomnie, font des cauchemars, ils sont en état d'alerte permanent. Il faut leur faire un bilan médical pour savoir dans quel état ils sont. Certains enfants arrivent avec des problèmes gastro-intestinaux qu'il faut traiter, ou des infections, virus ou bactéries, parce qu'ils ont dû vivre dans des conditions très difficiles pendant leur route migratoire. Toutes ces atteintes physiques s'accompagnent de troubles psychologiques. Quand on fait les évaluations psychologiques, on voit que ces enfants ont besoin d'un traitement psychiatrique long, pas seulement d'un ou deux mois, mais souvent de plusieurs années. Et je dois dire que nous avons aussi eu des cas psychiatriques nécessitant une hospitalisation.
Pour ne pas dire que nous avons eu des cas psychiatriques qui sont d'hospitalisation.
Fabriella a bénéficié de ce suivi psychologique. Désormais, elle ne voit plus son futur aux États-Unis.
Yo estoy pensando estudiar psicología para volverme psicóloga.
Je voudrais étudier la psychologie pour devenir psychologue et comme ça pouvoir
Canada,
aller au Canada,
a México, que
ou
también
au Mexique,
donde
qui est un endroit que j'aime bien
porque también he hecho
parce que j'ai des amis là-bas. Ou je pourrais aller...
Salvador,
comment déjà ça s'appelle?
Guatemala, Nicaragua.
Ah oui, le Salvador, le Guatemala, le Nicaragua. Je suis déjà allée au Guatemala. C'est un pays très accueillant, très joli, plein de gens gentils et chaleureux. Et puis ce n'est pas très loin du Honduras.
Le travail des associations en Amérique centrale contribue également à déconstruire l'idée du rêve américain. Si Fabriella n'envisage plus les États-Unis comme un Eldorado, c'est en partie grâce à la sensibilisation menée par l'association hondurienne Coye Proden. Arnolfo Sevilla est avocat au sein de l'association. Il fait part d'autres défis liés au retour de ses enfants expulsés.
Arnolfo Sevilla, représentant de Coye Proden.
Arnolfo Sevilla, je suis représentant de Coye Proden.
problèmes pour adaptarse au territoire national. Tenemos casos de niñas.
Alors, il faut bien comprendre que les enfants font face à de nombreux problèmes pour s'intégrer. Nous avons des cas de petites filles et de petits garçons qui sont nés aux États-Unis avant de revenir au pays. Et certains ne connaissent pas la langue espagnole. D'autres ne s'adaptent pas au contexte social du Honduras. Ils peuvent aussi être victimes de discrimination de la part de la population. Nous avons des problèmes de xénophobie liés aux migrants. Même quand ce sont des nationaux, ils sont mal vus. À cela s'ajoutent les troubles causés par les conditions du voyage. Ces enfants reviennent souvent avec des traumatismes. Ils ont des difficultés à parler et à créer des relations, notamment avec leurs petits camarades. Du côté des autorités, un suivi a été mis en place afin que les enfants puissent réintégrer le système éducatif. On trouve déjà des lois qui stipulent qu'un enfant qui revient au pays doit immédiatement être inscrit à l'école, afin qu'il ne perde pas une année scolaire et qu'il s'adapte au plus tôt au système hondurien. Mais ça reste un défi énorme, car beaucoup de ces enfants n'ont pas la nationalité hondurienne, vu qu'ils ne sont pas nés ici. Les inscrire à l'école devient compliqué, les familles doivent faire venir les documents depuis les États-Unis, en passant par le consulat ou en payant un avocat pour obtenir les papiers. Et il y a également la question de l'inscription des enfants dans le système de santé. Nous avons une sorte de sécurité sociale avec des hôpitaux publics, mais pour y avoir accès, à nouveau, il faut des papiers d'identité. Et c'est le même problème que pour l'école. Ces enfants n'ont pas de documents nacionaux. Dans ces cas-là, nous, on fait intervenir des ONG de défense des droits humains pour que l'enfant puisse être accompagné et recevoir des soins. Cela dit, comme je le disais, ici en Amérique centrale, il y a quand même eu des avancées, surtout dans les domaines de l'éducation. Aujourd'hui, on a des autorités un peu plus sensibilisées et engagées sur les questions de droits humains et de protection des enfants, et cela a rendu certaines démarches migratoires et éducatives un peu plus simples. Les trámites migratoires et trámites d'éducation.
Parmi les migrants latino-américains, il y a aussi la plus grande diaspora d'exilés, les Vénézuéliens. Pour rejoindre les États-Unis, les plus pauvres n'ont pas le choix de passer par l'Amérique centrale. Le Honduras, en particulier, est un pays de transit. Mais les migrants y vivent dans des conditions précaires, le quotidien des Vénézuéliens. Vendre journaux, petits gâteaux, sucreries dans les rues. Teresa, 45 ans, mendie près d'un feu tricolore.
Je suis ici au Honduras avec ma famille et on survit en demandant de l'aide pour payer le loyer, manger, bref, tout simplement pour vivre. Tous les jours, je paye 8 euros pour une chambre que je loue. Cela fait 200 euros par mois, sans compter les repas. Et je dois également m'occuper de ma fille de 9 ans. Parfois, on n'a pas les moyens de payer le loyer. Ça nous arrive aussi de ne pas pouvoir payer pendant 2 ou 3 jours. Mais avec Dieu, on peut s'en sortir. Il faut avoir la foi et continuer de se battre. Oui, oui, ma fille est là, dehors, avec moi, dans la rue, à demander de l'aide.
Sa fille, Evermarie, 9 ans, je la retrouve quelques heures plus tard dans un modeste logement loué par ses parents. Une seule pièce de 5 mètres carrés où ils vivent à 3 et entreposent des vêtements, des produits d'hygiène, de la nourriture et quelques jouets. Sur son lit, à couverture rose, Evermarie se confie sur la rue où elle passe jusqu'à 8 heures par jour.
Je n'aime pas ça, parce que c'est fatigant. Il faut marcher, rester debout, et parfois les gens nous donnent quelque chose, parfois non.
Est-ce que tu peux jouer un peu ?
Non, je ne joue pas. Parce qu'après, ils pourraient croire que ma maman a beaucoup d'argent et ils ne me donneraient rien. Mais je peux quand même parler avec ma maman. Et je peux aussi aider pour qu'on me donne plus d'argent, pour qu'ils voient que je me tiens droite et que je ne dors pas. Bon, je dors quand même, mais pas dans la rue. Parce que je ne veux pas qu'on me voie comme une mendiante. Parce qu'on verrait ma tête de mendiante. Et je ne veux pas qu'on me voie comme ça.
Parce
que je ne suis pas une mendiante.
Je
suis un être humain. Un humain qui mange et qui a une maison, une petite maison ici. Ils n'aiment pas les Vénézuéliens. Ils veulent qu'on parte. Parce qu'ils disent qu'on dérange et qu'on est un problème pour ce pays. Dans la rue, ils le crient, ils nous crient dessus. Un jour, on nous a donné des restes comme pour des chiens, des restes mélangés, avec plein de choses dégoûtantes, un pain mâché, et ce sac, personne ne l'a ramassé, c'était juste des déchets. Mais ils ne peuvent pas nous donner ça, parce que nous ne sommes pas des gens de la rue. On n'aime pas manger ça, parce qu'on est humain.
Ever Marie, qui a d'ailleurs traversé à pied la jungle du Darién, cette forêt tropicale entre la Colombie et le Panama. Une jungle qui pourrait être retraversée en sens inverse par les migrants vénézuéliens. Actuellement, la question du retour dans leur pays se pose depuis la capture du président Nicolas Maduro par les États-Unis début janvier 2026. Stella est vénézuélienne. Elle est coordinatrice d'un groupe de migrants en Amérique centrale.
Je pense que maintenant, avec la situation de Maduro, pour nous, les Vénézuéliens, aller aux États-Unis n'est plus un objectif ni une priorité. On sait bien sûr que rien ne se fera du jour au lendemain, que ça prendra du temps. Ce n'est pas parce que Maduro a été capturé aujourd'hui qu'on va rentrer demain dans notre pays. Tout ça, c'est long. Il faut attendre pour voir ce qui va se passer, attendre de voir qui va prendre le pays en main, voir si le pays peut se stabiliser un peu avant de dire « on y retourne ». Mais là, je dirais que pour la plupart des Vénézuéliens, c'est plus qu'un événement historique. C'est une source de joie que le pays puisse retrouver un peu de stabilité économique. Parce que personne n'a envie de rester dans la situation dans laquelle nous, les migrants, vivons. Avant, dans notre pays, on avait tout. La famille, une maison, un travail stable, un bon salaire qui permettait de nourrir sa famille sans devoir être chaque jour dans la rue à vendre des sucreries. Je connais des Vénézuéliens au Mexique qui ont commencé à rentrer. Il y a deux options pour retourner dans notre pays. La première, c'est s'inscrire via l'Organisation internationale pour les migrations et au bout de 2 ou 3 mois, on a des vols gratuits qui nous ramènent au Venezuela. La deuxième, c'est de revenir par la terre, mais là, on doit de nouveau traverser plein de pays. Le Nicaragua, le Costa Rica, le Panama. Et en arrivant au Panama, on doit traverser la jungle du Darién. Mais ça coûte très cher. Entre 200 et 300 dollars par personne, rien que pour ce passage. Quand je suis partie du Venezuela, il y a 3 ans, j'ai dépensé presque 1000 dollars avec mes deux filles, juste pour arriver au Honduras. Et si maintenant, rien que le passage en bateau du Panama à la Colombie coûte entre 200 et 300 dollars, ça fait déjà presque 1000 dollars rien que pour ce trajet.
La traditionnelle route du sud vers le nord du continent semble se transformer. En Amérique centrale, de moins en moins de migrants sont aperçus. C'est ce que montre cette auberge destinée aux migrants, tenue par l'église. Elle est désormais complètement vide. Kenneth Rovello, le responsable de l'auberge.
Nous sommes une église et nous avons fondé une organisation il y a 7 ans qui s'appelle l'Église dans les rues. Ici, normalement, on fait des services religieux et cette organisation est plutôt dirigée par des jeunes. On a ouvert ce lieu en 2022 comme un refuge pour les migrants. Depuis que l'on a ouvert, on a accueilli environ 7500 personnes.
Este es el dormitorio de las mujeres.
Abajo teníamos el dormitorio, tenemos el dormitorio de los hombres, este es el dormitorio de las mujeres.
Voici le dortoir des femmes.
Han dormido hasta 70 mujeres.
Il y a le dortoir des hommes.
Cuando los flujos eran más
Dans ce dortoir, il y a eu jusqu'à 70 femmes par nuit quand les flux migratoires étaient au plus haut en 2022 et 2023.
No dormir en un techo.
Entonces, beaucoup n'avaient pas pris de douche depuis des semaines, ni dormi dans un lit ou sous un toit. Pour elles, pouvoir dormir sur un matelas, se laver et se reposer au moins deux nuits avec leur famille, c'était un vrai luxe. Ici, l'Église leur fournissait tout, de la nourriture, des soins de santé, un accompagnement spirituel et un vrai sommeil réparateur. La majorité des personnes accueillies étaient des Vénézuéliens, mais on a eu également des Colombiens et à une période, on a même eu environ 300 Haïtiens en une semaine. Il y avait aussi des Chinois, des Sénégalais, des Argentins, des Équatoriens, Nicaraguayens, Boliviens, Péruviens.
De todas las
On pourrait presque citer quelqu'un de chaque pays.
De cada país. Si quieren les voy a mostrar más abajo donde tenemos un comedor.
Plus bas, on a un réfectoire, des douches et une cuisine. Avec la politique migratoire de Trump, les migrants ont commencé à revenir depuis le Mexique. Mais c'est surtout sous l'administration Biden qu'il y avait beaucoup de migrants qui arrivaient. À l'époque, des familles entières ont passé Noël et le Nouvel An ici. L'abri était complètement rempli. Nous organisions alors des repas de fête pour tout le monde. Aujourd'hui, les flux ont beaucoup diminué et le refuge est très calme.
Une tendance également confirmée par les enseignants-chercheurs. César Castillo Pérez, coordinateur depuis 10 ans de l'Observatoire des migrations internationales à l'Université publique hondurienne.
Si vemos el tema de la migración en tránsito por Honduras, esta ha disminuido significativamente.
Au Honduras, les migrants qui passaient ici pour rejoindre les États-Unis ont fortement diminué. Les chiffres du transit migratoire étaient très importants jusqu'en 2024. En 2025, on observe une baisse drastique. Cela s'explique bien sûr par la politique migratoire des États-Unis, mais aussi par les actions mises en place avec d'autres pays, comme le Panama ou le Costa Rica, qui bloquent le passage des migrants sur leur territoire. L'ensemble de ces mesures, la fermeture des frontières et les politiques discriminatoires aux États-Unis ont contribué à réduire la migration. Selon nos études, la baisse est considérable. Pour vous donner une idée, en 2023, 500 000 personnes de différentes nationalités sont passées par le Honduras. En 2024, ce chiffre est tombé à 273 000.
En 2024, esta cifra disminuyó a 273 000 personas.
En Europe, on parle beaucoup de Donald Trump et de sa politique migratoire agressive. Mais en 2014, sous Barack Obama, 10 000 enfants honduriens ont été expulsés contre 3 000 en 2025.
Oui, nos recherches l'ont toujours montré. La politique migratoire américaine ne dépend pas d'un gouvernement ou d'un parti politique. Il y a toujours eu des restrictions à l'entrée des États-Unis et des expulsions. En réalité, il y a eu plus de déportations sous Obama que pendant le premier mandat de Trump. Même sous Biden, il y a eu des expulsions. Le vrai changement avec Trump, c'est le discours. La manière dont les migrants sont perçus et surtout les profils des migrants expulsés qui est différent. Avant, les personnes déportées étaient celles arrêtées à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Désormais, ceux qui sont expulsés sont les migrants qui vivent, ont obtenu un permis de conduire et travaillent aux États-Unis. La différence aujourd'hui, c'est la politique de criminalisation et de persécution des migrants, comme on a pu le voir avec les raids actuels de l'ICE, qui sont sans précédent. On cherche à instiller la peur. Le migrant est présenté comme responsable de tous les problèmes du pays, ce qui n'est pas vrai. La majorité des migrants viennent travailler et une grande partie du développement économique des États-Unis repose contrôle sur cette main-d'œuvre migratoire payait beaucoup moins cher.
En mi país de Guamil y sol ardiente se ve la historia en los rostros de la gente.
Une route migratoire en transformation, mais qui ne reste pas figée pour autant. Selon les chercheurs latino-américains, les migrants pourraient se tourner vers d'autres pays d'accueil, notamment en Amérique du Sud ou en Europe, comme l'Espagne.
Para querer del corazón mío no alcanza, pero esta luz multiplica la esperanza en que la selva no combata el fuego sola.
Rêve brisé, exil entravé, migré sous Donald Trump. C'est un grand reportage de Marie-Aimée Copleutre, réalisé par Annie Brault.
Grand reportage, Julie Paco.
Alors, Lucie Laplace, vous êtes avec nous pour prolonger la discussion. Je rappelle que vous êtes chercheuse à l'Université Lumière Lyon 2, chercheuse associée aussi à l'Institut Convergence Migration. Vous qui travaillez sur les migrations latino-américaines, Lucie Laplace, pouvez-vous revenir sur les causes profondes des migrations d'Amérique latine vers les États-Unis et quand est-ce que ces mouvements d'émigration ont débuté ?
Oui, merci pour cette question fondamentale. Alors, contrairement aux migrations historiques de la région de la fin du 19e siècle et de la première moitié du 20e siècle, là, on n'a pas affaire à des migrations qui reposent uniquement sur une volonté d'aller travailler ailleurs pour envoyer de l'argent à sa famille, rester au pays. Actuellement, ces migrations, elles ont des causes multiples qui souvent se superposent et qui rend plus difficile leur qualification juridique face à l'opposition classique hein, de la migration économique ou de la migration politique, de la figure du migrant économique ou du statut de réfugié, de l'exilé. Et parmi les facteurs déterminants actuellement, on l'entend très bien d'ailleurs dans les témoignages, on trouve en premier lieu la violence du quotidien qui régit les existences des gens. Il s'agit de violences exercées par des gangs, des organisations criminelles qui opèrent à la fois en milieu urbain, généralement plutôt dans les quartiers populaires, et qui augmentent aussi beaucoup ces derniers temps dans les zones rurales à cause, par exemple, du développement de la culture de la coca, dont la feuille est ensuite transformée en cocaïne. Comme mécanisme derrière ces gangs vivent notamment grâce à l'extorsion de commerçants, de chauffeurs, de petits entrepreneurs qui doivent payer régulièrement une sorte d'impôt criminel. Et la phrase qui va avec cet impôt, c'est « pour qu'il ne vous arrive rien ». Et refuser, c'est risquer des menaces, des agressions, la mort. Et cette violence, elle est d'autant plus contraignante que l'État n'offre pas de protection effective contre ces gangs. La police, la justice, elles sont souvent perçues comme absentes, impuissantes, corrompues. Et en parallèle, on trouve aussi d'autres formes de violence classiques, hein, qui sont les violences de genre, familiales, contre les femmes, les enfants, les personnes LGBTI. En parallèle, on trouve aussi le changement climatique, qui joue en fait un rôle d'accélérateur de fond. En Amérique centrale, une personne sur trois cite désormais les effets du changement climatique parmi les raisons du départ. Sécheresse, ouragan, inondation, qui frappent ces populations déjà précaires, et notamment dans ce qu'on appelle le corridor sec dont fait partie le Honduras, et ça vient fragiliser l'agriculture, créer des tensions foncières, créer des tensions locales qui donnent lieu des fois à l'accaparement de terres et qui rend finalement la survie locale de plus en plus incertaine.
Alors, vous parlez des raisons du départ. Est-ce que les modes de migration ont évolué ? On se souvient hein, de migration très importante en 2017-2018 avec la caravane des migrants, un mode de migration en groupe. Est-ce que ce mode de migration est-il toujours en cours ? A-t-il évolué ?
Alors, il y a toute une reconfiguration sur le phénomène des caravanes. Il faut savoir que c'est un phénomène qui est né entre 2011 et 2014. C'est un phénomène donc de migration collective, c'est des déplacements collectifs. Visuellement, ça ressemble en fait à un cortège de manifestants, mais ce cortège parcourt des centaines de milliers de kilomètres. C'est historiquement soutenu par des acteurs religieux. On l'a entendu l'intervention de l'Église dans ces auberges de migrants. voilà, militants humanitaires, qu'on trouve notamment en Honduras, qui est un lieu très fort dans l'histoire de ces caravanes. C'est un lieu de départ. Et l'objectif premier, c'est de voyager de manière plus sûre en réduisant les violences du trajet. Le moment de visibilité de ces caravanes le plus fort, c'est 2017-2018, avec un point culminant à l'automne 2018, où on observe des groupes de plusieurs milliers de personnes, jusqu'à 7000, majoritairement originaires du Honduras, du Guatemala, du Salvador. Et à ce moment-là, la caravane, elle remplit différentes fonctions. À la fois une stratégie de protection, que ce soit contre des organisations criminelles, que ce soit vis-à-vis de violences d'État lors du passage de frontières. C'est aussi c'est une forme qui permet de la négociation pour essayer de franchir des frontières, et notamment au sud du Mexique, voire à la frontière nord-mexicaine, mais ça n'a jamais vraiment marché. Et c'est aussi une forme d'interpellation politique pour dire « nous aussi on existe et on revendique un droit à migrer comme droits humains dans un contexte qui est quand même un contexte de fermeture croissante des frontières ». Et cette fermeture-là, on l'observe de manière de plus en plus nette, hein, ça s'accroît, à partir de 2019-2020, avec un tournant très très net, et notamment la militarisation au sud du Mexique, avec des freins en fait à ces migrations, des accords migratoires renforcés avec les États-Unis. Et ces caravanes, elles vont devenir plus petites, plus fragmentées, moins efficaces hein, pour atteindre la frontière nord. Et actuellement, cette dernière année par exemple, ces caravanes, leur sens a évolué, s'est transformé. Elles ne cherchent plus à atteindre les États-Unis, puisque c'est atteignable et tout le monde ne veut pas rejoindre les États-Unis, vu ce qu'ils sont devenus. Mais elles servent à quitter des zones de blocage, notamment dans ce centre de Tapachula, au sud du Mexique, à revendiquer des papiers au Mexique, ou même... et on l'a vu, c'est un phénomène minoritaire, mais des retours collectifs, même depuis les États-Unis, vers le Mexique, par exemple.
Donc des caravanes qui font l'autre chemin, le chemin retour, quoi.
Oui, c'est rare, mais...
ça existe.
Ça, c'est arrivé en début 2025, ouais.
Alors, ce qu'on entendait dans le reportage, hein, c'est le nombre de migrants expulsés des États-Unis vers le Honduras, qui a augmenté de 40% en un an, avec 38 000 migrants que le pays doit désormais accueillir, réintégrer. Des migrants parfois traumatisés. On a entendu notamment Edwin qui a passé 7 mois en détention aux États-Unis avant d'être expulsé. Il avait quitté le Honduras à l'âge de 7 ans. Alors comment l'État hondurien peut finalement réintégrer ses citoyens ? En a-t-il les moyens ?
Ben, c'est un enjeu majeur pour ces pays dont sont originaires une grande partie de ces migrants. Parce que c'est des pays qui ont toujours pensé les migrations en termes de départ. Bon, plus récemment, avec les migrations qui viennent d'Amérique du Sud ou via l'Amérique du Sud, via le passage judarienne, comme des pays de transit, mais ils se sont jamais conçus comme des pays de retour. Et donc, ils n'ont pas de politique, ils n'ont pas développé une réponse aux problèmes aux problèmes politiques que seraient les retours de leur propre population pour les intégrer chez eux. Il faut savoir que c'est des États qui ont des tailles assez réduites par rapport à ce qu'on connaît en Europe et notamment en France, et notamment du fait des politiques d'ajustement structurel des années 90. Et donc, ils ont des moyens administratifs limités en termes de taille de l'État, hein, et notamment pour déployer des politiques sociales. Ils ont assez peu de moyens. C'est des États qui lèvent assez peu d'impôts. Donc, peu de ressources pour répondre, et c'est pour ça, notamment quand on entendait un des représentants d'une administration d'État qui était interviewé tout à l'heure, il faisait beaucoup référence en fait à la coopération internationale, aux organisations internationales, dans une moindre mesure aussi à des ONG, des associations locales, parce que ils se situent comme ça dans une sorte de chaîne de politique publique qui les dépasse et sur lequel eux ont très peu de prise et sont en fait, assez peu formés, informés, font pas vraiment de choix clairs pour le moment, en tout cas là-dessus. Mais c'est un défi majeur pour ces États, et c'est un nouveau défi.
Oui, finalement, ce qu'on entendait aussi, c'est l'État hondurien qui attend beaucoup de l'appui d'instances internationales, comme l'ONU, le Comité aux réfugiés, l'OIM, l'Organisation internationale pour l'immigration, en fait.
Oui, complètement. Et notamment avec ces politiques qui sont... voilà, plutôt nouvelles, enfin, qui existaient par ailleurs, mais là, qui sont mises en œuvre pour répondre... au retour et notamment au retour éventuellement par exemple des Vénézuéliens on le voit sur cette politique de retour volontaire de l'Organisation internationale des migrations, où cette organisation donc onusienne fournit un billet, va s'occuper des démarches administratives et va donner un petit peu d'argent pour le retour au pays. C'est des montants qui sont limités, c'est pas des gros montants, mais pour autant, comme on entendait tout à l'heure cette migrante vénézuélienne, la question du coût du retour, elle se pose et elle est déterminante pour ces personnes qui sont en situation de pauvreté, voire d'extrême pauvreté, parce que cet argent-là du retour, ils l'ont pas. Et le retour coûte de l'argent.
Oui, alors il y a des programmes de réinsertion qui existent, notamment au Mexique, hein, il me semble, avec un programme qui s'appelle Mexico Te Ablaza. Le Mexique t'accueille à bras ouverts, avec des logements temporaires proposés, une petite enveloppe de 2000 pesos, 95 euros. C'est loin d'être suffisant, quoi.
Non, complètement. C'est comment dire, un petit revenu d'appoint pour faire face au retour immédiat. Et au premier jour du retour immédiat, aux premières semaines, mais c'est absolument pas suffisant pour revenir et refaire sa vie, on va dire, entre guillemets, normalement. Il y a tout un processus d'adaptation qui est hyper important et qui, traditionnellement, pourrait s'appuyer sur la famille, qui est un soutien classique des personnes migrantes. Pour autant, quand on part à 5 ans ou en tout cas enfant aux États-Unis ou qu'on est aux États-Unis et qu'on est expulsé et qu'on revient dans son pays sans connaître personne, ça n'a rien d'une évidence. Et encore, faut-il encore avoir de la famille, un contact avec eux. Donc, les défis sont immenses.
Alors, on a parlé du rôle des instances internationales. Les ONG aussi prennent le relais parfois, on l'entend aussi dans ce reportage. Le rôle de ces ONG est primordial aujourd'hui pour pallier les carences de ces États ?
Sur le terrain, il est central dans le quotidien de l'aide à ces personnes migrantes retournées ou les personnes encore en transit, les Vénézuéliens notamment. Mais justement, elles se sont développées, ces ONG, au moment des années 80-90, dans le sillage donc de ce consensus de Washington où les États avaient des tailles réduites en Amérique latine. C'est une caractéristique générale des États du sous-continent. Et en fait, elle pallie ce que l'État peut pas faire. Elle vient s'insérer là où l'État n'est pas, dans des configurations où l'État ne leur donne pas de moyens financiers, ne leur propose pas d'outils administratifs pour mettre en place des politiques sociales ambitieuses. Ces ONG sont principalement financées grâce à des financements internationaux, aide au développement, coopération internationale, aide onusienne aussi, mais c'est des financements qui sont pensés de manière temporaire et ciblée, ce qui fait que la prise en charge des personnes, elle repose sur une gouvernance qui est en fait assez fragmentée et précaire. Donc ces ONG, elles jouent un rôle indispensable d'aide d'urgence, d'accompagnement, d'orientation, de soutien psychologique, mais elles peuvent pas se substituer à un état social qui n'existe pas en fait, ni garantir un accueil durable, un emploi, une protection contre la violence. Ces conditions qui provoquent le départ de ces pays, il n'y a pas de réponse actuellement face à ces défis, en fait.
Alors, parmi les difficultés rencontrées par les migrants expulsés, que vous donnez à entendre, Marie-Aimée Copleutre, il y a la xénophobie et le racisme dont sont victimes, y compris les enfants.
Oui, on l'entend dans le reportage, la petite Ever Marie, 9 ans, qui est migrante vénézuélienne, elle parle d'attaques verbales, même de rejet de la part de la population hondurienne. Est-ce que, Lucie Laplace, on observe en Amérique centrale une montée de la xénophobie ? Et est-ce que c'est un phénomène qui serait récent ou alors est-ce que ça a toujours existé ?
Alors, c'est un phénomène qui n'est pas propre à l'Amérique centrale, c'est un phénomène qu'on retrouve dans d'autres pays d'Amérique latine. C'est un phénomène qui a augmenté quand les pays sont devenus des pays de transit ou en tout cas qu'ils accueillent de fait une population migrante parce que l'Amérique latine, mis à part des migrations anciennes, je pense notamment à la fin du 19e et au début du 20e siècle, la première partie du 20e siècle. Après, elles n'ont pas de tradition d'accueil à grande échelle de population. Et là, c'est vraiment la mise à l'épreuve, que ce soit pour les Vénézuéliens, qui sont 8 millions au total à être partis de leur pays, dont 6,9 millions à être restés dans la région de l'Amérique latine dans sa globalité, c'est-à-dire la majorité. On peut penser aux migrations également haïtiennes. On peut penser à des migrations, enfin des deuxièmes vagues migratoires plus récentes en Équateur, qui étaient évoquées tout à l'heure. Les migrations d'Équateur est beaucoup plus forte ces dernières années face à une augmentation extrêmement importante des violences liées au crime organisé, où les gens partent, ne peuvent plus concrètement vivre chez eux. Et donc, ces populations prennent la route et viennent s'installer temporairement ou traverser des pays qui sont dans des situations de pauvreté extrêmement importantes. Vous avez rappelé un chiffre essentiel, où Honduras, 50% de la population vit en situation de pauvreté. Donc ça veut dire que derrière ces migrants qui sont de fait pauvres, qui ont des moyens réduits, viennent exercer une pression par le bas sur les classes populaires de ces pays qu'ils traversent ou dans lesquels ils vivent temporairement. Et c'est cette pression-là, dans une situation économique qui n'est pas terrible de ces pays, qui crée une forme de pression et donc de rejet. Et donc c'est davantage leur position sociale de plus de pauvres qui arrivent en situation de migration qui crée justement le rejet pour que, par rapport aux personnes nationales qui les voient et qui essayent de se distinguer, si vous voulez, et de mettre de la distance avec justement ces populations.
Et cette présence des migrants vénézuéliens est aussi instrumentalisée par des responsables politiques latino-américains.
Complètement. Alors, on l'a vu récemment à l'occasion des élections chiliennes. Moi, j'ai pu l'observer en Équateur. J'ai observé les élections en 2025 là-bas. Ça a été une des thématiques de campagne. Ça le sera probablement encore aux élections colombiennes à venir là dans les prochains mois présidentielles et législatives. Enfin, on le retrouve, en fait, c'est une variable qu'on retrouve dans les élections latino-américaines de ces dernières années. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est un vrai problème. Il y a d'accueillir autant sans en avoir les moyens, alors que l'économie de ces pays-là va pas spécialement bien. Et donc, qui crée une pression par le bas au sein des classes populaires, des quartiers populaires, dans des contextes où il y a quand même le développement du crime organisé, notamment du trafic de drogue, mais pas que. Et ça, c'est facile d'assimiler les migrants, justement, aux acteurs du crime organisé et d'associer donc migrants, criminalité, de faire ce raccourci qui est tellement facile, extrêmement populiste. Et qui fonctionne en termes d'électorat, en termes de résultats de vote, malheureusement.
C'est entendu. Merci beaucoup pour votre éclairage, Lucie Laplace. Je rappelle que vous êtes chercheuse à l'Université Lumière Lyon 2, spécialiste des migrations latino-américaines. Le grand reportage de cette semaine, Rêve brisé, exil entravé, migré sous Donald Trump, était signé Marie-Méco Pleutre, Annie Brault à la réalisation, Alexandre Dang à la technique et Caroline Beneteau au web. Merci également à Kamal Nassur et ICI Pays de Savoie pour avoir assuré cette liaison avec notre invité. Ce grand reportage est à retrouver, réécouter et partager sur franceculture.fr et l'application Radio France.